des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Elisabeth Antebi.
Bonjour. Elisabeth Antebi reçoit aujourd'hui quelqu'un d'extraordinaire, au sens Charles Trenet du mot. Ce n'est pas un jardin extraordinaire, c'est un homme extraordinaire, mais où il y a des lapins qui parlent grec. Philippe Brunet, qui a un parcours extraordinaire, comme je l'ai dit, et qui va bientôt se retrouver en Avignon, puis sur les routes de France, puis aux éditions du Seuil, et puis dans bien d'autres endroits.
Io prenondis pronon amartem atta, stereo thanato ento octanontas tecae, thanontas blepontes empilius.
Philippe Brunet, c'est Antigone.
C'est Créon à la fin de la pièce d'Antigone de Sophocle.
Et qu'est-ce qu'il dit, là ?
Il se lamente. Il se lamente en portant le corps de son fils, Haemon, Aemon. Donc c'est une des tragédies les plus connues du répertoire grec, et connue aussi grâce à la pièce d'Anouilh en France, et une pièce qui a une place très particulière dans le répertoire du théâtre français.
Alors, c'est ce que vous allez jouer, je crois, il faut rappeler qu'elle est de Sophocle, pour ceux qui ne sont pas hellénisants. Vous allez jouer donc Antigone, une nouvelle Antigone, pour ceux qui auraient déjà vu une ancienne Antigone. Vous travaillez, parce que vraiment, c'est la phrase de Boileau, sans cesse, tu remets sur le métier, tu remets ton ouvrage, puisque vous y travaillez depuis 5 à 6 ans, je crois, et avec maintenant une version avec des masques.
Voilà, c'est la quatrième version et la deuxième version avec masque.
Elle aura lieu à Avignon, à quelle date ?
Alors, au théâtre de la Condition des Soies, à partir du 10 juillet jusqu'au 2 août, à midi.
Très bien, donc on courra à midi. Et je crois qu'auparavant, vous avez autre chose, si on vient un peu plus tôt.
Et si on vient un peu plus tôt, on peut voir à 11h très précise, Odyssée, une adaptation évidemment de l'Odyssée d'Homère, qui traitera principalement les chants 10 et 11 de l'Odyssée.
C'est-à-dire
l'épisode de Circé, et puis la magicienne Circé qui transforme les hommes en cochons, suivi aussitôt, après la mort d'Elpénor, de la plongée d'Ulysse chez les morts, aux enfers.
Alors, on vous a entendu dire ça d'une manière, disons, insolite. Nouvelle, je ne dirais pas, parce qu'elle remonte déjà à un certain moment, puisque je crois que c'est la prononciation restituée dans l'héritage ou la transmission d'un Américain qui s'appelle Stephen Dietz.
Oui, alors, moi j'ai fait des études classiques où on apprenait le grec ancien en le prononçant de manière scolaire, c'est-à-dire française. Pour les Grecs d'aujourd'hui, ça a l'air d'être une prononciation dite érasmienne, mais en fait c'est une prononciation purement française. On dit Achilleus. Alors qu'il faudrait dire Achilleus. Et donc, certains restituent un petit peu, certains tentent aussi de mettre un petit peu d'intonation. Achilleus. Et disons que le principal de la restitution phonétique et intonationnelle, de l'accentuation, c'est avec cet Américain, effectivement, Stephen Dietz, que je l'ai appris.
Qui était à l'Université de New York, je crois, non ?
Voilà, The City of New York. Voilà.
Oui.
Et il venait souvent en France, puisqu'il avait été élève d'Alphonse Daim à l'École pratique des hautes études, en même temps d'ailleurs que mon maître Jean Irigoyen, regretté, avec qui j'ai appris la métrique et fait mes travaux de recherche.
Oui, alors voilà, parce que, au fond, dans votre parcours, comme souvent dans tout parcours, mais vous peut-être un peu plus que les autres, il y a des rencontres avec des hommes remarquables, comme disait l'autre. Donc, vous avez commencé par rencontrer quelqu'un de totalement inconnu, qui disait des milliers de vers sans reprendre son souffle, ou presque, qui était à Louis le Grand, ou...
Oui.
Oui.
Voilà, Pierre Fortassier, qui n'est pas tout à fait inconnu, qui est un élève de Jacques Chaillet, musicologue, qui n'est pas allé jusqu'à achever sa thèse, qui était également un musicien, très brillant, et puis un helléniste hors pair.
Et nous allons reparler d'ailleurs de la musique, puisque vous avez repris ce flambeau-là, bien sûr. Bon, alors donc, ce monsieur Fortassier, d'ailleurs, au passage, je vais rendre hommage à Mademoiselle Desflacieux et à Mademoiselle Girard, qui étaient mes deux professeurs de grec à Molière, et qui m'ont donné l'amour du grec, et c'est pour ça que nous sommes là aussi, parmi les spectateurs, parce qu'il vous faut quelques spectateurs pour vous admirer. Donc, vous avez commencé cette grande entreprise, et quand est-ce que vous avez fondé votre théâtre qui s'appelle Démodocos ?
En fait, c'est une longue histoire. La naissance officielle et le premier spectacle, c'était en 1995. Oui. J'ai travaillé avec un Américain, Robert Hess, et on avait décidé d'adapter l'Odyssée ensemble. Moi, je réalisais l'adaptation, la traduction, et puis la mise en œuvre du grec ancien, la transmission aux comédiens et au chœur, et puis lui faisait la mise en scène. Et donc, c'est comme ça que Démodocos est né. Démodocos, c'est un nom d'aède aveugle dans l'Odyssée.
Alors, qui c'est Démodocos, oui ?
Pas ce mendiant, mais ce chanteur aveugle chez les Phéaciens, à qui Ulysse remet une cuisse de sanglier pour le remercier de ses chants.
Je crois que maintenant, vous chantez Démodocos. Vous avez un chant
voilà.
Avec François Cam. Je ne vais pas vous demander de le faire tout de suite. Mais... Donc, Démodocos est né et tout de suite, vous êtes attaqué à l'orestique que vous aviez déjà dans vos bagages, si je puis dire, non ?
C'est-à-dire qu'en 1997, je décide de faire la mise en scène d'un spectacle Agamemnon et de faire naître la tragédie. Et de montrer le processus, comment faire advenir la tragédie.
Ça s'appelait À quand Agamemnon ?
Oui. Voilà, À quand Agamemnon ? Et c'était en trois tableaux. Le premier montrait une jeunesse aphasique, un peu désespérée et désespérante, puisqu'elle ne pouvait parler autrement que par onomatopée, ou à peu près. Et puis la reine demandait à cette jeunesse, en attente du retour de son roi, de répéter le retour du roi. Et à l'issue de cette répétition, le comédien qui jouait le roi et la comédienne qui jouait Cassandre étaient retrouvés morts. Il s'ensuivait un état de choc, de prostration, qui, face au deuil, faisait advenir une parole rythmée, et ensuite, tout d'un coup, tout recommençait, comme dans la répétition, mais en grec ancien cette fois, pendant 35 minutes, avec des masques et des cothurnes extrêmement violents dans leur esthétique, c'est hyper contemporain, on va dire, et c'était ce choc de l'image très contemporaine et du grec ancien reconstitué, rythmé, chanté, qui avait fait le succès et parfois le scandale de ce spectacle.
Oui, parce que vous étiez l'un des premiers à dire les choses en grec ancien, à exiger finalement du spectateur une écoute et vous répondiez à une attente qui n'était encore que l'attente, si je puis dire. Alors, depuis, vous avez dosé, c'est-à-dire que ce qui est maintenant extraordinaire et mûr, sans doute, c'est que vous dosez entre le français et le latin, et j'ai entendu récemment, comme plusieurs spectateurs à l'École normale supérieure, puisque vous êtes anarchicube, je crois, puisque vous êtes vous-même un archicube, je vous ai entendu dire la première pitique de Pindare avec François Cam, votre complice dont nous reparlerons d'ailleurs, qui lui, c'est la partition musicale au fond. Et c'était extraordinaire d'équilibre entre le grec et le latin, avec un petit garçon d'ailleurs qui passait la cithare qui s'appelle Gaspard Brunet, votre fils je crois de 13 ans. Bon, alors vous êtes arrivé à cet équilibre.
Du grec et du français.
Du grec et du français. Est-ce que vous auriez dans vos papiers et dans vos souvenirs un exemple pour le faire entendre ?
Bon. En fait, il y a plusieurs... Il y a l'idée que si on donne la chose en français, c'est souvent avant qu'on le fait, parfois après, et on le fait d'une manière qui est rythmée également en français selon les temps du grec. Alors ça, c'est l'enjeu d'une entreprise de retraduction des Grecs, que j'ai commencé cette expérience à la suite des expériences que faisaient les traducteurs du russe, et notamment André Markovitch, que j'ai rencontré en 81, le jour où je rentrais à l'école normale.
Oui, autre rencontre.
Dans un café.
Grand traducteur de Pushkin, si je comprends bien.
Voilà, oui. Et de bien d'autres choses encore. Et en fait, qui aurait traduit l'Iliade s'il avait été helléniste, mais il a traduit Catulle.
Oui.
Il traduisait Catulle, qu'il a publié en 85.
Que nous avons entendu au Festival européen latin-grec.
Voilà, c'est bien sûr sa traduction...
Oui.
C'est ainsi que tu m'as arraché aux autels de mes pères, pour me laisser, perfide Thésée, sur ces rives désertes. Ah, perfide, tu fuis, oubliant la vengeance divine, c'est ton parjure maudit que dans ton foyer tu emportes, etc. Ces vers-là sont en fait des hexamètres français. Et c'est une chose qui n'existait pas en français avant... les expériences de la Renaissance, qui malheureusement ont quelque peu avorté, comme beaucoup de choses à la Renaissance, peut-être à la suite de la Contre-Réforme, ou comme dans l'histoire de la peinture, on voit une cassure terrible se produire à la suite de la Contre-Réforme, et bien en littérature aussi. On sait par Agrippa d'Aubigné qu'un certain Mousset avait traduit toute l'Iliade en hexamètre dactylique, français. Et de cette traduction, il ne reste qu'un vers et demi. Et donc il fallait tout recommencer, et ce que j'ai fait là, depuis ces 20 dernières années. Mais je n'ai pas tout à fait répondu à votre question. Et donc, pour mettre en jeu le français et le grec ancien, il y a une solution qui est celle du récital. On dit une strophe en français, on chante une strophe en grec, ce que nous avons fait à l'école normale récemment, dans un cadre de récital. Au théâtre, c'est différent. Il faut que la logique de traduction, ou la logique bilingue, soit justifiée par la mise en scène. Par exemple, dans les Perses, on ne pouvait pas faire tous les dialogues en grec ancien, même si j'aimerais beaucoup le faire. Donc j'ai demandé à de jeunes traducteurs, enfin qui sont devenus de jeunes traducteurs et poètes maintenant, c'est-à-dire Guillaume Boussard, Aymeric Munch et Yann Migoubert, de traduire la pièce en rythme, en suivant la métrique. Au moment, après que le messager soit venu, après cet immense désastre raconté, enfin ce moment pathétique, poignant, intense, qu'on a dit plusieurs fois, à Paris, à Athènes même, à Vaison-la-Romaine, à Avignon, deux ans de suite, survient le moment des prières. La reine vient prier avec le cœur. Elle apporte des offrandes sur le tombeau de feu son mari Darios, le roi. Et au terme de cette prière, très rythmée, très dense, très poignante, tout le monde est suspendu dans l'attente et rien ne se passe. Et à ce moment-là, on comprend pourquoi j'ai mis deux reines dos à dos, parce que le satyre, parce que j'introduis aussi un satyre dans mes pièces, puisque c'est le théâtre du Dionysos que nous mettons en scène.
Et oui, ça c'est très important. Vous rappelez souvent que dans le théâtre, il y avait trois tragédies et un drame satirique, ce qui change totalement l'optique des choses. C'est on géométrise d'abord pour dégéométriser, comme disait Picasso un petit peu.
Voilà, c'est ça. Donc c'est tout le jeu du comédien et de l'interprétation et de... du cœur comme métamorphose, toujours du cœur. C'est quatre cœurs, en fait, que montre une représentation tragique. Et donc, le satyre vient, prend la reine qui était derrière, la fait passer devant, celle qui était devant passe derrière, elles sont à nouveau dos à dos, celle qui vient à l'avant-scène commence à chanter en grec ancien. Le cœur répond en grec ancien, Darios sort du tombeau. Et évidemment, il parle grec ancien. Et à ce moment-là, on trouve quelqu'un pour dire la traduction et on... Ou alors on fait basculer, ça, parce que j'ai varié la mise en scène, on fait basculer peu à peu le personnage de Darios pour qu'il puisse parler et être compris également de.
Vous avez aussi un musicien, un grand musicien qui a travaillé sur les Perses.
Oui, c'est Jean-Baptiste Appéré qui avait fait la musique alors. Et François Cam, à l'époque, chantait Xerxès.
François Cam, mais je voudrais garder un moment pour François Cam, si je puis dire, tout seul. Et les Perses, ça a été aussi, c'est assez emblématique, parce que je crois que Jean Rouch vous a filmé.
Alors, Jean Rouch, c'est une histoire complexe due à un personnage très énigmatique, mystérieux, qui vivait au Quartier Latin, qui se surnommait Éric Pide. On a appris un jour que c'était le palindrome de Sire Édipe, que c'était une sorte de pseudonyme très mystérieux, de personnage, de clochard et de philosophe à la fois, qui prenait des repas à l'école normale, et avec qui j'ai collaboré sur un certain nombre de ses textes littéraires. Enfin, survient un jour cette pièce « À quand Agamemnon ?» et j'insère même un de ses dithyrambes, une ode à l'empereur, comme ça, au milieu du spectacle. Et Jean Rouch vient écouter ce spectacle, voir ce spectacle à la Sorbonne. D'autres amis artistes de ce monsieur viennent. Malheureusement, il meurt l'année suivante, en 98. Et du coup, je retrouve tous ses amis. Et je découvre qui était en fait ce personnage très énigmatique. Au départ, mathématicien, joueur d'échecs, russe, peintre qui avait créé le transfiguralisme. Enfin, à l'époque, très comme ça, axé sur certains mouvements artistiques. Et puis, lorsque nous jouons les Perses, j'appelle Rouch. Je lui dis, bon, les Dogons, c'est bien, mais il faut filmer les hellénistes en Sorbonne. Il y a quelque chose qui se passe avec les hellénistes en Sorbonne. Et il vient avec un opérateur et une caméra. Et il veut continuer, donc ensuite, son assistant Bernard Surugue est ami, enfin, co-directeur du film Le rêve plus fort que la mort, vient à Vaison-la-Romaine, il continue de filmer. Il m'emmène en Afrique, au Niger, et nous faisons une répétition des Perses avec des Nigériens à Niamey. Et tout ça est dans le film de Rouch.
Alors, vous avez commencé à comprendre le charme assez mystérieux du, non pas de Philippe Brunet lui-même, mais du talent de Philippe Brunet, parce que quand il s'explique, il a commencé en s'expliquant d'une manière extrêmement rationnelle, tout le plaisir et tout le mystère et tout l'enrichissement spirituel ou intelligent que l'on peut retirer de ces spectacles sont bien ailleurs, et il a commencé tout juste à nous en parler. Nous nous retrouvons dans quelques minutes.
Jean d'Ormesson sur Canal Académie, immortel depuis le 18 octobre 1973, date de son élection à l'Académie française, Jean d'O, comme l'appellent familièrement ses lecteurs, n'a pas attendu cette date pour devenir un écrivain célèbre. Retrouvez Jean d'Ormesson sur Canal Académie avec Elisabeth Antebi dans notre émission En habit vert.
Rebonjour, Elisabeth Antebi reçoit toujours Philippe Brunet qui commence à soulever le voile, ses voiles salomesques de mystère, sur quelques-unes de ses créations et quelques-uns de ses talents. Alors nous étions donc avec Jean Rouch et avec les Perses. Il faut aussi dire que les Perses a été un moment aussi tournant finalement, puisque c'était la grande pièce emblématique du théâtre de la Sorbonne, fondée, je crois, par Roland Barthes.
Roland Barthes et Jacques Chaillet, avec la bénédiction de Paul Mazon, le traducteur, en 1936.
Voilà.
Le premier spectacle, les Perses.
Voilà, évidemment, c'était une date pas très propice, mais les Perses, on en garde encore ce souvenir assez émerveillé d'un film. Moi, j'étais toute jeune, donc je garde ce souvenir, je ne sais pas si...
Donc là, vous pensez au film de l'ORTF,
oui.
De Jean Prat.
Je crois, sur cette... c'était pas sur cette représentation.
C'est pas le même groupe, mais c'est vrai qu'il y a une fusion dans l'imaginaire.
Oui. Dans l'imaginaire, oui, c'est assez curieux. Bon, ouais. Enfin bref, donc vous êtes l'héritier de cet imaginaire, ce qui est déjà beaucoup. Et maintenant, vous jouez beaucoup à la Sorbonne et avec les chœurs, le chœur antique de la Sorbonne, dirigé par François Cam. Et nous allons venir à ce personnage qui est non moins extraordinaire et énigmatique d'ailleurs. Est-ce que vous y jouez depuis longtemps? Est-ce que maintenant vous allez y jouer souvent? Et quels sont vos liens avec le théâtre de la Sorbonne?
Alors, en fait, lorsque on a lancé Des mots de cause en 1995, avec la bénédiction de Jacqueline de Romilly,
oui,
et de Jacques Joannat qui nous a ouvert le grand amphithéâtre, en fait, nous avons fait travailler des chœurs à la Sorbonne, mais aussi à l'école normale, aussi à l'université de Tours où j'enseignais, et puis des lycéens sont venus, des
collégiens. Car vous êtes professeur d'université, il faut le dire, vous êtes toujours professeur et vous enseignez toujours à Rouen maintenant.
Oui, à l'université de Rouen, je suis professeur.
Oui, c'est ça, donc heureux sont les élèves, comme je le dis chaque fois. Sous les auspices de Jacqueline de Romilly et de Jacques Joannat, vous avez le grand amphithéâtre, oui.
Voilà, et nous faisons Le Retour d'Ulysse, qui est un très grand succès. Et sur cette lancée-là, nous n'avons pas cessé en fait de jouer à la Sorbonne, dans le grand amphithéâtre, tant qu'il a été ouvert. Ensuite, il a été restauré pendant
date,
deux ans. 95.
95, pardon, vous l'aviez dit.
Quasiment tous les ans, on a joué une, fois, deux fois, trois fois. Et la dernière fois, c'était pour l'érecter en 2007, le 12 octobre, avec la musique de François Cam. Nous avons reconstitué les fragments pour
Alors,
en
raconte,
faire...
Oui, dites un peu ce que c'est que cet érecté. Moi, je ne sais pas du tout ce que c'est que cet érecté.
Ah, c'est une pièce perdue.
Oui, déjà, alors... ça commence, oui. Oui. De qui?
De Ripide. De Ripide. Mais la pièce est d'Euripide, le mythe évidemment n'appartient pas plus à Euripide qu'à un autre.
Rappelez-nous le
comme
mythe.
Comme souvent, alors le mythe c'est le roi Érecté, fils ou petit-fils d'Érictonios, ou lui-même né de la semence d'Héphaïstos qui poursuivait la déesse Athéna, semence qui féconda l'acropole. Et donc en est sorti ce serpent primitif et fondateur d'Athènes. Le roi Érecté, en tout cas, qui a comme une apparence humaine dans la tragédie, a des filles. Et un jour, les Thraces attaquent, font le siège d'Athènes. Ils partent d'Éleusis, emmenés par Eumolpe, le fils de Poséidon. En fait, les Thraces ont donné les mystères à Éleusis. Enfin, ils jouent une influence importante.
Thraces, oui.
Voilà, Orphée, Déméter. Et pour se défendre, le roi propose de sacrifier, semble-t-il, un enfant. La reine, et là on a le texte d'Euripide, dit qu'il n'est pas question de sacrifier un enfant adopté, il faut sacrifier ses propres enfants. Elle propose sa fille. Donc la fille est sacrifiée, moyennant quoi les deux sœurs se sacrifient à leur tour, et le roi part au combat. Il meurt au combat en tuant Eumolpe. Et donc, c'est une victoire pour Athènes un peu amère, mais une victoire quand même. Toutefois, Poséidon n'a pas dit son dernier mot, et il fait trembler l'Acropole. À ce moment-là, Athéna intervient en gloire, et là, on a un papyrus à la Sorbonne qui nous donne le texte d'Athéna, absolument magnifique. Et donc, on s'est offert le luxe pour une production qui devrait passer sur Arte, sur le Parthénon, puisqu'on suppose qu'un des motifs de la frise du Parthénon est justement érecté, et sa tribu. Et donc, on s'est offert cette chance extraordinaire de monter ce spectacle, puis dans un sens tout à fait archéologique, où on a voulu montrer Athéna, une Athéna Parthénos, donc celle que Phidias avait faite dans le Parthénon, pour le Parthénon, avec son casque ailé, et puis toutes ses gorgones sur l'égide et sur son bouclier.
D'ailleurs, à cette occasion, vous avez eu un long entretien avec Jacqueline de Romilly, qui est venue tout spécialement à l'amphithéâtre Richelieu, je crois.
Oui, j'étais très content de pouvoir lui dire quelques mots en hommage pour la remercier, pour lui dire aussi que grâce à son soutien au début, Démodocos a pu comme ça connaître un grand succès et puis continuer, travailler, que 12 ans après, nous étions toujours là et très heureux de pouvoir justement lui faire cet hommage et lui dédier la représentation d'Érechthée.
Surtout que c'était le triomphe finalement de la douceur grecque qu'elle chante toujours sur les barbares, enfin.
Oui, il y a ce chant merveilleux, le seul que nous ayons vraiment conservé de l'Érechthée, qui raconte, c'est le cœur de vieillard, qui chante la nostalgie, l'espoir que la paix revienne, et que les toiles d'araignées se multiplient enfin, et qu'on puisse oublier la violence et les conflits.
Bon, alors, et vous aviez rencontré Jacques Joannat, puisque vous avez parlé de Jacques Joannat, qui est donc un spécialiste à la fois d'Hippocrate et de Sophocle. Vous l'aviez déjà rencontré aussi quand vous étiez tout jeune, à l'époque de toutes ces rencontres, dans les sillages d'Irigoyen, non ?
Ah, c'est-à-dire que j'étais étudiant de Jean Irigoyen pour la métrique grecque et l'étude des manuscrits, mais j'allais également au séminaire de Jacques Joannat sur Hippocrate et sur la tragédie, et donc je suis également son élève, même si... Et puis il m'a accompagné, il était bien au jury de mon doctorat, et également il a dirigé mon jury d'habilitation.
Sur quoi était votre doctorat ? Quel thème ?
Je ne sais pas si j'oserais prononcer le titre comme ça.
Si, si.
Si, il faut. Alors, le vers dactylique, lyrique, dans la tragédie grecque.
Voilà, et quand on pense à tout ce que ça a donné depuis de beaucoup plus goulillant pour l'oreille profane, c'est intéressant de le rappeler. Alors, dès cette époque, vous étiez passionné de Pindare, et je crois que vous êtes parti, vous aviez fait une courte rupture, enfin une courte de 2 ans, dans la coopération en Bolivie, parce que vous ne pouviez pas évidemment rester dans quelque chose de banal. Et au retour, vous êtes parti pour Londres, puisque vous vouliez, je crois, traduire tout Pindare.
Enfin, le projet m'avait été confié d'éditer Pindare, les fragments de Pindare. Donc je suis allé à la British Library pour étudier le papyrus des Péans, magnifique papyrus. Et puis je dois dire que j'étais un peu découragé par le recto du papyrus, qui est un cadastre.
Et donc égyptien, je crois, un cadastre égyptien.
Voilà, oui. Les papyrus ont été trouvés à Oxyrhynque. Et donc il aurait fallu faire un double travail d'édition, à la fois éditer Pindare et la poésie, donc c'était ma spécialité, mais également éditer le cadastre, et là c'était pas tout à fait ma spécialité, et j'avais également une autre passion, c'était la traduction. Et donc je voulais traduire Pindare, et j'ai ramené de Londres des traductions de Pindare et de Sappho également, qu'ensuite j'ai montré à Jean Irigoyen, qui m'a tout à fait encouragé dans cette voie, et c'était la grande mansuétude de ce maître, que d'accueillir un peu ma fantaisie. Quand même.
Et alors, c'est Sappho que vous avez traduit, finalement. Et puis, non seulement vous l'avez traduit, mais vous avez publié suscité, en tous les cas, un livre tout à fait extraordinaire qui est aux éditions Alia, que je ne cesse de brandir tellement il est beau. Ça s'appelle « L'égal des dieux, 100 versions d'un poème de Sappho ». Il n'est pas tout neuf, hein, il a été publié il y a... 10 ans déjà. Mmh. Et c'est toutes les versions de l'ode à l'aimé, enfin du poème à l'aimé, depuis Catulle, je crois, jusqu'à... c'est Catulle, hein.
Oui, enfin c'est toutes les versions françaises, donc depuis la
Renaissance. En passant par Racine, alors voilà, c'est toutes les versions françaises, jusqu'à Racine, Anna de Noailles et... Alors, il y en a de Noailles, non?
Je ne crois pas. Il y a René Vivien.
Il y a René Vivien, il y en a bien d'autres. Et alors, surtout, des versions magnifiques, parfois inconnues, et qui suscitent l'imagination, parce que vous communiquez là votre passion pour la traduction, puisque 100 fois, ou à peu près, on traduit l'herbe jaune. Ça, je m'en souviens, puisqu'elle pâlit comme l'herbe jaune ou quelque chose comme ça. Je dois en inventer une 101e, d'ailleurs, moins bonne. Mais c'est de mémoire. Et vous montrez vraiment comment la traduction enrichit l'œuvre et fait partie de l'œuvre. Ça, c'est un de vos apports aussi. C'est-à-dire que le traducteur est toujours trahisseur, mais sans sa traduction, ça serait encore une autre dimension, sans doute.
Oui, il y a plusieurs dimensions dans la réception d'une œuvre de l'Antiquité. Il y a sa transmission, et une partie de sa transmission, c'est également l'histoire des interprétations, et donc également l'histoire en traduction. Il y a une nouvelle vie pour le poème, qui est celui, d'abord sa tradition éditoriale stricte varie. Ça, on retrouve, il y a des trous dans les papiers, dans les manuscrits, des leçons, des variantes. Et puis on a même trouvé un petit papyrus en 65 qui a permis de clore la quatrième strophe. Et à l'intérieur de cette histoire qui déjà est protéiforme, il y a en plus l'histoire de la traduction où chaque époque, chaque traducteur ou traductrice, de son point de vue littéraire, philologique, de professeur ou d'amateur, d'amant ou d'amante, dans le cas de ce poème, apporte sa manière de voir les choses. Et dans le fond, c'est comme s'il y avait effectivement, comme si Sappho continuait de travailler dans notre langue, en nous. Et ça, c'est tout à fait passionnant. Et effectivement, quand je traduisais moi-même Sappho, j'avais conscience en même temps que je n'étais qu'un maillon dans une chaîne comme ça très mouvante et très riche.
Oui, enfin, un maillon courageux, parce qu'aujourd'hui, défendre tout cela et nous entraîner, parce que ce que vous faites et ce que j'ai vu de mes yeux vus, c'est que, et entendu plutôt, c'est que vous, des gens qui ne connaissent à peine le grec et le latin, suivent et comprennent par osmose, par transmission, par divination, si j'ose dire, et vous infusez, c'est pour ça que je dis heureux sont les élèves, vous êtes didascalos, comme vous le dites de temps en temps, vous infusez le grec et le latin, même le grec surtout, je trouve, moi plus, mais enfin, les deux, vous infusez le grec dans les oreilles qui vous écoutent, hein, dans les cerveaux et dans les corps, parce que le corps est extrêmement... Voilà, ce que nous essayons au fond de dire, et nous le disons à travers la parole, ce qui est difficile, le corps est très présent chez vous, on n'entend que notre voix, ce qui est déjà beaucoup, ce qui fait partie de notre corps, et vous vous servez de cette voix précisément pour émouvoir nos corps.
Mais c'est une chose étonnante, quand on commence à dire du grec et quand on le découvre... D'abord, ça n'est pas simple, effectivement, mais ça n'est pas non plus compliqué, et ce n'est pas une chose qui nous laisse en dehors. On rentre dans le mystère des syllabes, des voyelles, des noyaux vocaliques, des diphtongues, on découvre qu'il y a des montées, des descentes, et donc que déjà la langue naturelle est musicale. On découvre ensuite qu'il y a des frontières de syllabes extrêmement, parfois tranchantes, parfois plus douces, et on s'aventure comme ça dans une espèce de géographie, de paysage. On vit quelque chose effectivement corporel qui va nous pousser au geste, au pas, à marcher. Et c'est en cela qu'en quelque sorte, la philologie en fait, se développe en théâtre. Pas immédiatement, c'est-à-dire la philologie passe par la voix d'abord. La voix, c'est le corps. Et ce chant, forcément, sort. Et donc, il est fonction du lieu et du public, de ceux qui le reçoivent. Et si la voix ne vibre pas, il n'y a pas de transmission. Et donc, c'est pour ça que je remercie mes professeurs qui ont lu, qui ont chanté devant moi. J'étais tout à fait étonné à Louis le Grand d'avoir un professeur capable de dire La Fontaine, Racine, Chénier pendant des heures. Et à une époque où on nous disait qu'il fallait lire plutôt tel et tel auteur structuraliste bien pensant, parce que c'était ça. Et on était soi-disant dans une avant-garde structuraliste. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que je me rendais compte que ce qui était, je ne sais pas d'où ça vient, si c'était particulier à ce professeur ou à mon goût, mais j'étais très heureux de voir que tous les élèves ne venaient pas à ces cours et séchaient, et que nous étions 3, 4, 5 à vouloir écouter, au contraire, quelqu'un nous faire entendre Verlaine.
Il en est encore quelques-uns dans les catacombes. Bon, nous allons nous arrêter quelques minutes, mais on comprendra donc avec Philippe Brunet que ce que dit Jacqueline de Romilly, quand je l'interrogeais à un moment donné, elle disait, vous savez, aujourd'hui, nous allons au plus rapide. Les Grecs, eux, allaient au plus profond. Et c'est ce que nous entendons aujourd'hui un petit peu avec Philippe Brunet. Nous reprenons dans quelques minutes.
Tout ce qui touche la Grèce touche Jacqueline de Romilly. Écoutez-la parler des arbres, commenter Sophocle et l'olivier, Platon et le platane, raconter la mythologie du laurier. Jacqueline de Romilly, un arbre pour la Grèce, dans l'émission Focus sur Canal Académie.
Pussis cryptes thai pilei, il garde secrète sa croissance, il grandit dans l'obscurité. L'être joue à cache-cache et n'exhibe qu'à proportion de ce qu'il dissimule.
Donc ça, c'était Héraclite des débuts, je crois. C'est une traduction d'Héraclite que vous aviez faite.
Pour un recueil que j'ai baptisé « Héraclite trahi ». Puisque là, en fait, je traduis quatre fois le même fragment, dans une espèce de transformation perpétuelle de
oui, et
de
alors,
traduction.
Et je répète ce que vous disiez, l'être joue à cache-cache et n'exhibe qu'à proportion de ce qu'il dissimule, ce qui est une assez bonne définition, sans doute, de Philippe Brunet lui-même. Il y a quelque chose que vous avez travaillé pendant 20 ans au moins, c'est une traduction... trahison, interprétation, respiration de l'Iliade, qui va sortir, puisqu'il faut bien que quelque chose sorte un jour sur papier, au seuil, je crois, à l'automne prochain. Alors, pourquoi 20 ans de l'Iliade ? C'est Pénélope, c'est la Pénélope de l'Odyssée, ça.
C'est-à-dire que c'est 10 ans pour prendre Troie et 10 ans pour rentrer à Ithaque. Donc c'est tout ce temps-là. Et en fait, j'ai beaucoup hésité. Il y a même quelques mois, je développais un discours comme quoi jamais je ne publierai. Parce que je pensais que c'était plus intéressant de continuer à travailler dans le mouvement et à faire dire, à former des aèdes pour dire, à changer en cours de lecture, récital, improvisation, la traduction. Mais au départ, la contrainte, c'était d'essayer de faire rentrer tous les noms propres. Agamemnon, Ménélas, Hélène, dans ce qui serait une espèce de calque rythmique de l'hexamètre dactylique grec, en français. Donc le but c'était ça. Et puis en même temps pour l'Odyssée, parce que l'Odyssée on en avait besoin pour le théâtre, parce qu'on jouait beaucoup plus l'Odyssée que l'Iliade, même si on adore l'Iliade évidemment. Et c'est-à-dire qu'il fallait transposer ce qu'on appelle, parfois un peu maladroitement, pas très joliment, le formulaire homérique. C'est-à-dire ces épithètes, ces formules, entre guillemets,
oui, c'est pas très
ces expressions qui font qu'un nom de personnage, de héros, mais aussi de lieu, est accompagné d'une épithète, d'une périphrase.
Aux tresses violettes, aux yeux de vache, etc.
Voilà, oui. Voilà. Oui. Donc il fallait trouver des équivalents qui puissent rentrer dans le vers, au début du vers, à la fin du vers, au milieu. Et donc il fallait comme ça, peu à peu, former ce dictionnaire, finalement. Et petit à petit, je l'ai fait. En 98, lorsque j'ai publié ma traduction d'Hésiode, en gros, j'avais l'impression qu'il était constitué. Et je ne me suis pas rendu compte qu'il me faudrait encore 10 ans pour achever, refaire, transformer, réécrire. Et pour, oui, enfin, c'est vrai que j'ai fini, mais en même temps, j'ai un peu honte de dire que j'ai fini, parce que ça n'est jamais fini. Il faudrait reprendre. Il faut arriver à rendre les sons. Hector. Pourquoi il est Hector ? Homer, quand il dit Hector, il entend Ekei, c'est celui qui tient la ville. Il entend aussi Ektane, celui qui a tué, qui oxy. Oxy, qui garde la ville intacte. Il faut trouver en français les sonorités. Agamemnon, le grand roi. On se moque parfois de lui parce qu'il est un peu méga, mégalo. Enfin, on l'entend dans son nom. Homère l'entend, évidemment. Il travaille à partir de la chair des noms propres. Et donc, c'est tout ça qu'il fallait aussi transposer. Autant que possible, et pas seulement les figures étymologiques comme chez Hésiode qui existent. Mais, et donc c'était forcément un travail dans la matière du français, pas seulement un travail intellectuel à partir avec un dictionnaire, disons. Il fallait faire la philologie, il fallait voir l'interprétation des mots, mais en même temps, il fallait essayer de trouver des équivalents. et que ça puisse un petit peu chanter en français, puisqu'en français, on n'avait pas eu de traduction de l'Iliade. C'est un peu difficile de dire ça comme ça, mais on peut dire qu'en allemand, Voss, Johann Heinrich Voss a rendu une très belle traduction à l'époque de Goethe, de l'Iliade et de l'Odyssée. Plus tard en russe, Gnieditch a fait une traduction, il a mis aussi des années très nombreuses pour y arriver. Il a d'abord traduit en alexandrin, puis il a tout jeté. Il a fait ça en hexamètre très archaïsant dans la langue russe. Et en français, on avait, et ça c'est grâce à un Américain, Ezra Pound, que je l'ai su, il y avait la traduction de Uxhalel à la Renaissance. Il n'a fait que 12 chants, il est mort malheureusement, et c'était en décasyllabes, très chantant, merveilleux. C'était quelque chose comme « Je te supplie, déesse gracieuse, vouloir chanter lyre pernicieuse, dont Achille fut tellement épris que Paris scelle un grand nombre d'esprits, des princes grecs, par dangereux encombres, filors descente aux infernales ombres, et leurs beaux corps privés de sépulture furent aux chiens et aux oiseaux pâtures. » Voilà. Et à partir de ces décasyllabes, j'entendais une musique, puis cette cadence de 4, 1, 2, 3, 4, c'était aussi le début, en quelque sorte, de l'hexamètre, une possibilité de l'hexamètre. Chante, déesse, lyre du Péléia d'Achille, avec ceci de différent qu'ensuite, dans l'amplification des syllabes, on gardait, on reposait sur un nombre de temps, de 6 temps. Chante, déesse, lyre du Péléia d'Achille. Ire funeste qui fit la douleur de la foule achéenne, précipita au fond de l'Hadès nombre d'âmes vaillantes, de guerriers, et livra aux chiens leur corps en pâture, et à tous les oiseaux, achevant le dessein du Cronide, depuis le tout premier jour, exo deta prota, diastete nerissante, atreideste o anaxandron, cae dios Achilleus, tistars poeteon, eridixun heece macestae, qui des dieux, les mettant aux prises, provoqua leur querelle, l'enfant de Zeus et Leto, letus cae dios huios, hogar basileu i colotes, nos sona nastra tonor se cacen, o le conto de laoi, Honne caton crus anatimas en aretera, Atreides, hogarelte toas epineuas acaion, lus omenoste tugatra peronta bereisia poina, etc., etc. Tenant en main les bandeaux du dieu. Et voilà, c'est, on pourrait
et
comme ça faire en bilingue à la fin.
Et votre traduction là-dessus? Sur ce passage, vous vous rappelez
Il allait jusqu'aux nefs achéennes pour délivrer sa fille, portant la rançon innombrable, tenant en main les bandeaux du dieu. Et je ne sais plus exactement. Là.
Bon, nous la lirons donc en octobre. Oui. On pourrait croire que vous êtes simplement attaché à la tragédie. Or, je vous ai vu d'une violence de gaieté, si je puis prendre ce terme-là. C'est-à-dire, vous avez, justement, vous n'avez pas jamais la dérision, même dans Circé, même dans des passages. Apparemment, vous n'êtes pas, et heureusement d'ailleurs, Dieu nous en préserve, un être de dérision. Vous retrouvez quelque chose du rire profond de l'homme qui est nécessairement tragique aussi. Et dans Circé, même dans Circé, Circé est drôle, enfin drôle. Oui, ce que vous montrez sur scène est assez drôle. Ulysse est un peu pas nounouille, je ne pourrais pas dire ça, mais Circé est très puissante. Circé est beaucoup plus puissante finalement qu'Ulysse. C'est elle qui décide tout. Les hommes sont un peu niais. En l'occurrence, alors que par ailleurs, vous avez des magnifiques caractères masculins, dont Créon, qui est un personnage extraordinaire, qui est bien là. Mais dans Circé, j'avoue que moi qui adore Circé, qui transforme les hommes en cochons, j'étais étonnée de voir cet Ulysse aussi
timide, craintif.
On peut dire ça, un peu poupée de. Enfin, j'exagère. Enfin, poupée.
Bien sûr, il a peur des dieux. Circé est une déesse, de même qu'il a peur d'Hermès quand Hermès vient pour lui apporter son confort.
Oui, oui, oui.
Il est absolument terrorisé. Bon, bien sûr, oui. On tire cet épisode de l'Odyssée du côté de la comédie. Donc ça, c'est volontaire, c'est l'interprétation. Et ensuite, lorsque Hermès remet à Ulysse le Moloup, cette herbe mystérieuse qui va lui permettre de vaincre les sortilèges de Circé, du coup, Ulysse retrouve un peu de courage.
Oui, il reprend du poil de la bête.
Armé d'une certaine protection. Et finalement, il fait tomber à ses genoux la magicienne, et avec une certaine fierté masculine.
Oui, c'est assez paillard, d'ailleurs.
Bah, oui.
Non, mais j'insiste là-dessus parce que c'est vrai aussi que, justement, on parlait de la chair et que tout, c'est, comme vous l'avez dit vous-même, les mots ont une chair. Et que c'est ce qui manque souvent quand on raconte, vous disiez à Jean Rouge que c'était bien les Dogons, mais que pourquoi ne pas se pencher sur les Grecs. Or, aujourd'hui, nous avons une autre forme de censure qui est de ricaner du grec ancien et du latin comme si c'était des pauvres vieux édentés qui en parlaient et puis voilà, puis que ça disparaîtra avec eux. Or, ni vous ni moi n'avons la tête de vieux édentés, je le dis pour les auditeurs qui ne nous voient pas. Donc, que répondre à tout cela? Comment dire que c'est une respiration qui est tout autre chose?
Mais bon, c'est le problème de toute la place du grec dans notre culture. C'est souvent comme ça qu'on la présente, mais aussi la place de notre culture par rapport aux Grecs. Et je pense que ce sont les Grecs qui rient en nous voyant. Enfin, je pense qu'il faut inverser les choses. Et donc, bien sûr, le rire a sa place, toute sa place, et la joie de vivre, et même dans la tragédie. La tragédie est drôle, immensément drôle. Il y a des personnages qui sont hauts en couleur, qui sont énormes.
Oh, donnez-moi un rigolo dans la tragédie, il n'y en a pas beaucoup aussi.
Même dans Antigone, le garde.
Ah oui, c'est vrai. Oui.
Ce garde qui arrive avec très apeuré, il a peur que la foudre, le ciel lui tombe sur la tête devant Créon. Mais c'est la situation extrêmement comique. Et puis ces vieillards, ce cœur de vieillard un peu égrillard qui chante un hymne au désir. Vous avez déjà vu ça dans une tragédie? Dans Antigone, où la jeune fille va être mise à mort, il y a un hymne à l'amour, Eros. C'est une violence extrême, et donc très contrastée. Et ce cœur qui de vieillard, disons, nous ne savons pas dans quelle tétralogie rentrait Antigone. Mais forcément, le cœur se transformait pour, à la fin, lors du quatrième spectacle, devenir un cœur de satyre. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'à la fin, au terme de ces métamorphoses, nous avons des satyres généralement lubriques. Quand on prend la Danaé d'Eschyle, que raconte la Danaé, le drame satirique de la Danaé, drame perdu, dont nous avons seulement quelques fragments, il raconte comment un pêcheur attrape dans ses filets une boîte. C'est le fameux Larnax, où se trouve endormie une jeune femme. Certes, accompagnée d'un nourrisson, Persée. Mais tout de même, très intéressé par la beauté de cette jeune femme, aussitôt survient la troupe des satyres qui vient prendre, saisir la... Voilà le sujet même du drame satirique d'Eschyle. Et le public, qui depuis déjà quelques heures assiste à une représentation très mêlée à la fois de joie, de tristesse, mais souvent de drame terrible, aboutit à une espèce de déferlement d'énergie et de joie au sein même de la représentation tragique, et même pas dans la comédie. Alors évidemment, la comédie, c'est le lieu d'explosion du corps à tous les sens du terme.
Et là, vous avez monté, et naguère. D'ailleurs, ce que vous dites rappelle un peu la phrase de Mélina Mercouri, vous savez, dans Jamais le dimanche, et puis ils allèrent tous à la plage, quoi, après la tragédie. Il y a ça dans la nature grecque qui est restée, d'ailleurs, qui est donc toujours là. Mais vous aviez monté les grenouilles d'Aristophane, en recréant le breté. Vous pouvez me donner le breté
Brekekekex-coax-coax. Voilà le cri Brekekekex-coax-coax, qui dans la traduction adaptation, très adaptée, parce qu'il faut adapter la comédie, parce que la comédie c'est toujours le présent, obligatoirement. Dans la tragédie, on rend le mythe très lointain présent, mais dans la comédie, on doit rendre les références présentes. C'est ça la différence. Et donc on est obligé d'adapter. Sinon, si on parle de Cléon, et que personne ne connaît Cléon, personne ne sait que c'est un homme politique, on a échoué complètement. Donc on était obligé de donner une valeur, et beaucoup de gens se prêteraient très bien à pouvoir remplacer avantageusement ce personnage de Cléon dans les références de la comédie. Et voilà, et donc les grenouilles, c'est ça. C'est, alors breke-beket, breke-beket, breke-kekex, c'est-à-dire le cri un peu enfin un peu obscène, de, comment dire, des grenouilles, dans ce cloaque, dans ce marais aux portes des enfers. Pourquoi un marais, il faut expliquer, parce que c'est aussi la comédie en retour est sérieuse. Nous sommes en contexte de crise, nous sommes en 405, c'est la fin de la guerre du Péloponnèse, c'est épouvantable. Donc Sophocle et Euripide viennent de mourir il y a quelques mois. Et Aristophane va montrer une Athènes en déshérence. Les muses sont abandonnées, désertées, il n'y a plus de bons poètes. Et donc on retourne aux enfers, mais aux enfers c'est un cloaque. Même si les grenouilles sont extrêmement vivantes et sont prêtes à faire renaître dans leurs bruits obscènes quelque chose de l'exultation de l'ancienne comédie. Parce qu'il y avait déjà eu des comédies avec des chœurs de grenouilles auparavant. Donc il y a la nostalgie, le sentiment chez Aristophane que quelque chose va mourir, sans doute déjà la tragédie est-elle en grande partie morte, et sans doute que la comédie elle aussi va périr puisque le manque d'argent, l'ancien système va peu à peu s'amenuiser, la comédie va se transformer considérablement. Ça ne sera plus la comédie avec ses chœurs animaliers extrêmement virulents, grossiers, obscènes. Ça va devenir peu à peu une comédie de caractère qui va nous mener au raffinement de Ménandre, de la nouvelle comédie, qui va donner naissance évidemment au théâtre de caractère romain et puis à notre théâtre moderne du XVIIe siècle. Mais on peut dire que l'ancienne comédie, elle, n'aura pas d'héritier. C'est ça qui est très curieux.
Molière, peut-être, dans La Grosse Farce.
Dans La Grosse Farce, oui. Puis Sganarelle, Don Juan, c'est bien sûr déjà... Dionysos Xanthias dans Les Grenouilles, justement.
Oui, mais il n'y aura plus ça. Cette grande santé, si on peut dire, d'Aristophane, oui.
Voilà, mais alors Brick et Beckett, Beckett, au lieu de Brick et Kekex. Et bon, ça, c'est notre manière de jouer.
Oui,
alors... On va flirter avec le drame métaphysique contemporain.
Bon, nous allons reprendre dans quelques minutes pour finir avec Philippe Brunet. C'est Elisabeth Antebi dans Parcours.
L'écrivain Frédéric Vitoux de l'Académie française se confie à Canal Académie. Il raconte sa passion pour Céline, sa biographie de Rossini, son œuvre de critique, de romancier, de scénariste. Frédéric Vitoux, une vie littéraire bien remplie, dans l'émission En habit vert sur Canal Académie.
Nous reprenons la fin de notre entretien avec Philippe Brunet, qui donc se produit en Avignon le 18 au 2 août, et qui va sortir sa fameuse traduction issue d'un fruit de 20 ans de travail de l'Iliade au seuil en automne, qui cet été va parcourir les chemins, nous en parlerons un peu tout à l'heure, mais j'annonce d'ores et déjà qu'il va se retrouver le 5 juillet, à Vaison-la-Romaine, qui est un festival créé et dirigé par Annie Bastide, avec un spectacle donc de Démodocos le 5 juillet.
Odyssée.
Il y aura aussi du 11 au 15 août quelque chose de plus, enfin je vais dire de plus original, non c'est pas plus original, mais de plus rare, disons, c'est-à-dire que vous allez aller sur une voie romaine, dans un festival qui s'appelle Les Millières, du nom des bornes sur la voie romaine qui signale les milles. Et ça sera d'Argenton à Poitiers, avec une dame qui organise ça, que j'appelle une brunette d'une manière un peu, qui s'appelle Véronique Pillon. Et on peut donc, si on cherche Pillon, Les Millières, Argenton Poitiers, on tombe en Google là-dessus, du 11 au 15 août. Et enfin, dans le Languedoc-Roussillon, vous retrouve le 24 août au festival Son Miré, ou du haut-parleur, à Fabrezan, dont je ne savais pas que c'était la ville natale d'un poète que j'aime énormément, car c'est le poète du Harençon, c'est Charles Cros, avec son hareng long, long, long. Et là, vous ne nous direz pas le hareng, bien sûr, vous allez nous dire Homère, bien entendu. Bon. Alors, après avoir rappelé tout ça, il faut quand même dire qu'il y a une dimension dont on n'a pas parlé beaucoup. Vous êtes un descendant de samouraï, tout s'explique. Et à travers le masque, vous retrouvez en quelque sorte le nœud. Ou alors, est-ce que mes raccourcis sont un peu trop saisissants? D'abord, votre origine, donc, en partie japonaise.
Oui, ma mère est japonaise. Et sa famille, effectivement, avait de nombreuses relations avec la France depuis 1862, puisqu'à ce moment-là, donc, un des ancêtres était dans la délégation du Shogun qui a rendu visite à Napoléon III. Et puis ensuite, dans la famille, il y a toujours eu beaucoup de relations de médecins, de gens qui sont venus en Europe en bateau, puis qui sont rentrés à cheval par la Sibérie. Ça, c'était en 95. Ça, c'est du côté de mon grand-père, donc un médecin militaire. Et effectivement, donc, oui, c'est là. Je ne sais pas comment, mais souvent, on me dit, mais quand je déclame du grec, on entend du japonais. Alors,
retrouve ces sources.
Il y a la manière dont ma voix se timbre, il y a toutes sortes de choses très inconscientes. Et puis, alors, j'ai travaillé un peu le no. C'est vrai que c'est formidable de pouvoir le faire. J'ai fait des maîtres à la cartoucherie et les maîtres Umewaka. Et c'est vrai que bon, j'ai appris à chanter un peu de no et un peu à bouger. Et j'ai toujours senti le besoin. Pour moi, à quand Agamemnon, justement, je l'ai compris plus tard, c'était un no. Un no en ce sens où ce qui advenait, non pas comme dans le no un fantôme ou un personnage mystérieux, c'était la langue. En fait, c'était le grec ancien et ses personnages de la mythologie.
Et qu'est-ce qu'il y a de semblable au no, d'inspiré par le no, si on peut dire, ou de proche du no? Le masque, bien sûr.
C'est-à-dire qu'il y a une première partie qui est au présent, mais ce présent, en quelque sorte, va accoucher de quelque chose de plus profond dans la mémoire. Il va être porté par la langue grecque et parfois avec l'artifice du masque également. Le masque est un artifice extraordinaire. Et en même temps, effectivement, qu'on reconstitue la langue ancienne, on se devait de tenter de le faire également par le masque. Et ça, c'est compliqué. Pas si facile. On l'a fait dans Agamemnon avec des masques très modernes, mais qui n'avaient rien à voir avec les masques antiques. On l'a fait pour les grenouilles avec des masques en papier mâché inspirés de l'Antiquité. Donc, le travail de Christina Uribe, très, très beau travail. Et puis, avec Antigone, on l'a fait deux fois déjà. Et des premiers masques en résine, puis maintenant de nouveaux masques, alors eux qui sont vraiment inspirés de l'antique, certains sont bouche fermée, je ne les ai pas voulu trop expressionnistes, mais plutôt un petit peu endormis, de telle sorte qu'ils commencent à vivre avec le personnage, qu'on arrive à faire naître les personnages grâce aux masques.
Alors vous avez parlé de certaines des personnes avec qui vous travaillez. Il faut dire que vous travaillez, vous avez réuni comme Barrault en son temps, comme d'autres, comme Villard, comme d'autres grands directeurs de théâtre, sans avoir rien de commun spécialement avec eux. Mais enfin, vous avez cette même force de ciment, ce ciment des autres, ce pivot plus exactement. Et vous réunissez des gens, alors des artistes. Alors, on a parlé tout à l'heure de François Cam, on va en parler une bonne fois. François Cam, que j'admire beaucoup, est un musicologue, a commencé comme votre élève, je crois.
Bon, il était étudiant à Tours lorsque j'étais enseignant là-bas, oui.
Oui, et donc il se consacre à la musicologie, il est professeur lui-même.
Oui, il enseigne au lycée, le français, le théâtre et il est musicien, par exemple.
Et c'est lui qui a créé alors vraiment des créations extraordinaires vocales et avec cette voix incroyable qu'il peut avoir à un certain moment. Donc, Cam est très important dans votre planète des Modocos, si l'on peut dire. Parce que vous avez plusieurs planètes, plusieurs petites... des étoiles, enfin, je ne sais pas, qui font des planètes... ma cosmogonie n'est pas très bonne. Mais vous avez un petit... on va prendre des îles, des petits îlots qui font un archipel. Et vous avez alors en musique, on les a cités, on a cité Appéré, on a cité Cam.
On aurait pu citer Stéphane Villard qui a fait la musique des grenouilles.
Oui, qui a fait la musique des grenouilles. Alors, il y a d'autre part des artistes. Il y a un peintre taïwanais qui s'appelle Li Wenxian.
Li Wenxian, qui est ami d'Eric Pied, qui nous a peint des décors sur panneaux de bois.
Un sculpteur russe.
Igor Tchelkovsky, qui est retourné à Moscou, qui était réfugié politique, maintenant donc travaille là-bas.
Il y a vos décorateurs, comme Emmanuel Collin, lui, il est...
Oui, il vit pas loin d'ici, de la Seine, près de Notre-Dame.
Oui,
et
Yves
il a fait des décors très fins, sculptés. Yves Leblanc, qui nous a fait les masques de la première Antigone.
Mais enfin, on va en oublier, donc ça sera ma faute, je le dis tout de suite, parce que on ne peut pas citer tout le monde. Mais donc, on a entendu d'ailleurs au nom que vous avez beaucoup dans l'entourage de Russes. Vous avez une Bolivienne, je crois.
Christina Uribe. Non, elle n'est pas bolivienne.
Pas bolivienne, elle est...
Anglo-mexicaine, on va dire.
Anglo-mexicaine. Enfin, c'est pas pour dire les nationalités des gens. C'est simplement que vous ouvrez vers bien autre chose, que vous êtes un point de rendez-vous de gens tout à fait extraordinaires et hors de l'ordinaire au sens propre du mot, dont votre Cassandre, qui est maintenant votre associé, si l'on peut dire, dans le festival des Dionysies, qui est grec et éthiopienne.
Oui, Dido Likoudis, ce n'est pas ma Cassandre, j'aimerais bien. J'ai déjà fait des petites performances avec elle, à la revue Cassandre notamment, puisqu'elle a un spectacle qu'elle joue depuis longtemps, qui est Cassandre. Elle en a un autre qui est Errance, où elle dit les plaintes d'Io, et c'est quelque chose que j'ai vu grâce au Dionysie, puisque nous avons créé ce festival maintenant il y a 3 ans. Mais je n'avais jamais vu ce spectacle, j'ai souvent été avec elle en même temps, juste avant ou après, dans des festivals. Et là, j'ai assisté à ce spectacle qui durait 30 minutes, et je suis resté tout à fait étonné que je n'avais jamais vu ça en Europe. J'avais l'impression enfin de voir du théâtre, et pas un bricolage ou pas une espèce de supercherie faite à grands coups de millions, mais que tout à coup, c'était là. Il y avait quelqu'un, il y avait une comédienne qui avançait, qui bougeait, qui faisait revivre le mythe à travers un système d'éclairage, de tissu qu'elle peint elle-même, un travail sur la langue grecque absolument bouleversant, qui était entre le grec ancien reconstitué et aussi le grec moderne, parce que parfois elle a comme ça plusieurs passages, plusieurs langues intermédiaires aussi. Il n'y a pas qu'une seule langue, il n'y a pas de normes. Souvent, on nous reproche parfois d'opter pour le grec restitué, mais en fait, c'est une création toujours,
c'est
une
la interprétation, même langue,
bien sûr. Oui. Et c'est le même travail. En traduction, c'est encore du grec ancien, on va dire. En français, on parle encore du grec ancien. Donc effectivement, Dido fait un travail magnifique. Et j'aimerais beaucoup qu'on collabore et on cherche des manières d'inventer des formes pour collaborer. Et récemment, elle est venue nous aider pour la mise en scène d'Antigone. Puisque je me suis bombardé cette fois dans le rôle de Créon, ne cherchant pas spécialement à jouer, mais j'aime beaucoup jouer, mais souvent quand on dirige, ce n'est pas possible. Et là, j'avais envie de le faire, et donc je lui ai demandé la faveur de venir nous aider, nous assister pour la mise en scène.
Vous avez même joué, je crois, Antigone.
Malheureusement, parce que la comédienne s'était fait mal, et donc j'avais dû la remplacer
non,
au pied levé.
Non, mais c'est pour dire combien vous êtes le théâtre. Enfin, pour vous, le théâtre ne se réduit pas, et ne se définit pas, et ne se cerne pas dans un petit machin, si, comme aujourd'hui, à des interprétations. Et c'est très intéressant, parce que vous ne parlez pas du théâtre, d'ailleurs vous ne parlez pas du théâtre, vous en faites. Vous n'en parlez pas comme toute cette veine de théâtre de metteurs en scène que nous avons connue depuis près de 30 ans maintenant et qui font du théâtre de metteurs en scène, c'est-à-dire qu'on n'entend jamais l'œuvre. Ça continue un peu, il faut dire qu'ils sont parfois bien en cours. Et il serait intéressant peut-être dans nos wishful thinking, je crois qu'on dit, je ne sais pas comment on dit en grec, de dire que puisqu'on joue, vous l'avez dit un jour et je trouve que c'est tout à fait juste, puisqu'on joue la cantatrice chauve, ce qui est très bien parce que Ionescu est un grand homme depuis près de 50 ans, je crois maintenant, enfin près d'un demi-siècle à la Huchette, eh bien pourquoi n'y aurait-il pas un théâtre qui se consacre tout simplement, par exemple, à l'Orestie?
L'Orestie, Antigone, pas de raison effectivement qu'on joue Ionesco, qui est très intéressant, mais qui incarne une certaine modernité absurde, et pourquoi on ne joue pas ce qui est fondamental dans notre répertoire, et qu'on le joue, alors c'est ça, la difficulté, et c'est en ça que je viens du Japon peut-être. Pourquoi au Japon y a-t-il un théâtre de répertoire, de tradition, qui se transmette, et pourquoi il faut recréer, on l'a vu avec le théâtre baroque, pourquoi on n'a pas ça, et pourquoi on est obligé de faire des productions qui durent 3 mois, 6 mois, et qu'on jette? C'est-à-dire tous nos spectacles sont jetables actuellement. C'est tout à fait effrayant. C'est-à-dire qu'on met des millions dans des productions scénographiques où on sait que le parquet coûte tant de millions d'euros. Et puis on sait très bien que lorsque les 2-3 théâtres qui coproduisent le spectacle auront montré le spectacle, ce sera fini. Donc où va le répertoire? Où est-ce qu'il est joué? De même qu'en traduction, n'importe qui peut aujourd'hui s'improviser adaptateur, traducteur. Donc, et c'est très bien, ensuite, via SACD, les gens s'enrichissent, c'est très bien, c'est formidable. Mais ça n'est pas l'essentiel. Il est très important de pouvoir constituer un répertoire littéraire de traduction. Et dramatique, donc. À l'usage du théâtre. Et donc je me demande s'il n'y aurait pas un moyen. On a finalement besoin d'assez peu, en fait, de moyens pour faire jouer, pour faire advenir cette parole, cet art, sur la scène. De même qu'on joue le répertoire de nos établi par Zéami depuis plusieurs siècles, pourquoi ne joue-t-on pas des textes qui en vaudraient la peine, y compris en grec ancien, puisqu'on a les textes, donc on a la manière de les dire. Je suis très heureux, j'ai appris que Olivier Py faisait chanter ses chœurs en grec ancien, donc je suis très très content. Et voilà, donc c'est peut-être que justement le théâtre dit professionnel va peu à peu... apprendre aussi des expériences qui ont été menées ces dernières années à la Sorbonne.
Oui, mais il faudrait peut-être, et c'est au fond le vœu sur lequel nous pouvons achever pour Philippe Brunet, qui a eu le culot d'organiser un concours d'Aed sur le tombeau de l'empereur aux Invalides, qui a eu bien des culots et qui est très moderne au sens grec du mot finalement, qui est bien d'aujourd'hui, qui est bien de là et qui est bien surtout de toujours. Eh bien, j'aimerais, nous aimerions bien qu'il ait une place où s'exprimer plutôt que les créations de mode qui font que le grec peut être à la mode et puis disparaîtra à nouveau. Voilà, donc ça serait intéressant d'avoir un théâtre qui rappelle nos racines, qui les fasse retravailler sans cesse et qui soit finalement très moderne, comme tout ce que fait maintenant Philippe Brunet. Bah écoutez, je fais un dithyrambe plutôt qu'un péant pour l'instant, mais après tout, on peut avoir ses préférences littéraires. Merci Philippe Brunet pour ce beau parcours.
Merci à vous.
Et nous l'espérons à bientôt dans un théâtre.